Le Sénégal accuse la police canadienne d'avoir passé à tabac une conseillère diplomatique qui, pour se défendre face à ce comportement raciste, a mordu les policiers. Le Canada s'est engagé à enquêter sur cette énorme bavure policière. Le Sénégal a accusé officiellement donc la police canadienne d'avoir violé la Convention de Vienne en battant une diplomate sénégalaise et le Canada, embarrassé, aurait promis d'enquêter sur le comportement de la police. Selon la presse canadienne, la Sénégalaise avait été menottée et brutalement battue à Ottawa. Le ministère sénégalais des Affaires étrangères a convoqué le conseiller de l'ambassade du Canada à Dakar, accusant la police canadienne d'avoir perquisitionné le domicile d'une diplomate sénégalaise le 2 août et d'avoir commis des violences, d'humiliation physique et mentale devant un témoin. Le ministère sénégalais des Affaires étrangères a fermement condamné un comportement raciste et barbare. Dans la soirée du 6 août, le gouvernement du Québec a annoncé l'ouverture d'une enquête indépendante suite à un rapport fédéral selon lequel le premier conseiller du barreau, ambassadeur du Sénégal au Canada, a fait l'objet d'interventions policières ayant suscité des soupçons. La police a déclaré avoir été appelée lorsqu'un huissier avait du mal à faire exécuter une décision de justice. Mais la Sénégalaise brutalisée en légitime défense a frappé un agent au visage et mordu un deuxième officier qui procédait à son arrestation. La femme a ensuite été menottée et emmenée dans un véhicule de patrouille pour la sécurité, selon la police, des personnes présentes. Selon le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, la police canadienne a exercé sur la diplomate une violence physique et morale humiliante devant témoins et surtout en présence de ses enfants mineurs. Malgré le rappel de statut de diplomate de la victime et de l'inviolabilité, donc de son domicile, les éléments de la police canadienne l'ont quand même menottée et sauvagement tabassée au point qu'elle a du mal à respirer, ce qui a conduit à son évacuation à l'hôpital. Informé de ces faits inacceptables et injustifiables, et pour dénoncer et condamner fermement cet acte raciste et barbare, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a convoqué la chargée d'affaires de l'ambassade du Canada à Dakar le 4 août dernier. Une note de protestation a été servie aux autorités canadiennes via l'ambassade du Canada à Dakar et celle du Sénégal à Ottawa. Le Sénégal a aussi exigé qu'une enquête soit diligentée sans délai et que des poursuites soient menées contre les auteurs de cette agression inadmissible. C'est clair et net, même le statut de diplomate n'est même plus respecté. D'ailleurs, jusqu'à présent, beaucoup de diplomates africains se sont retrouvés dans une situation où leur statut n'a pas du tout été respecté. Des parlementaires centrafricains avaient déjà dénoncé lors d'une conférence de presse les tracasseries dont ils sont régulièrement victimes lors de leur séjour en France. Nous sommes harcelés, intimidés, humiliés, comme l'a protesté avec énergie le vice-premier président donc de l'Assemblée nationale, Évariste Ganemana. Donc, il a dénoncé un contrôle de douane survenu en salle d'embarquement, tandis qu'il reprenait le chemin de Bangui avec plusieurs autres députés de retour d'une mission au Parlement européen. Fin février, la ministre des Affaires étrangères, déjà Sylvie Baye-Pentemone, avait fait l'objet d'une fouille au salon du même aéroport, une mésaventure similaire qui serait également arrivée à la ministre des Arts et de la Culture, ainsi qu'à d'autres officiels centrafricains. Plus de limites, l'Occident se permet sans cesse de violer les droits des Africains. On le voit constamment avec les migrants qui se font assassiner ou encore réduits à l'esclavage, notamment en Libye, ou encore les étudiants en Ukraine qui se font maltraiter et refouler à la frontière parce qu'ils fuyaient la guerre, les Africains ayant des nationalités de pays occidentaux et qui sont même nés dans ces pays de l'Occident, qui sont constamment victimes de discrimination dans leur quotidien, les diplomates qui sont traités de la sorte sans que personne ne condamne ces actes. Trop, c'est trop. L'Afrique doit se soulever à chaque mauvais traitement infligé aux Africains à travers le monde. Les instances comme l'ONU ou bien les pays occidentaux en diront jamais rien concernant les exactions commises contre les Africains en général. C'est à l'Afrique maintenant de se soulever. Au Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a présidé donc ce mardi la cérémonie de remise officielle d'un important lot d'aéronefs et d'équipements pour les forces armées maliennes. Le Premier ministre, l'ambassadeur de la Fédération de Russie, les anciens de l'armée de l'air ont pris part à cet événement historique. Les capacités de l'armée de l'air viennent d'être renforcées grâce aux nouvelles acquisitions d'avions de chasse de type L-39 et Sukhoi 25, des hélicoptères d'attaque de type Mi-24P, des hélicoptères de manœuvre de type Mi-8 ainsi que d'un deuxième avion de transport tactique de type Airbus CASA 295. Par ces nouvelles acquisitions, nous donnons un coup d'accélérateur à la montée en puissance de nos forces, s'est réjoui le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Selon lui, l'objectif des autorités de la transition est de refonder l'armée malienne pour être davantage professionnelle, bien équipée, bien entraînée, dotée d'un bon moral plus proche du peuple dont elle est issue et dominant l'espace des opérations suivant les règles d'engagement strictes. Une armée qui reflétera les valeurs guerrières du Mali, a-t-il précisé, avant d'indiquer que l'ambition est de se battre d'abord pour gagner les guerres imposées à la nation malienne pour ensuite créer les conditions d'une paix durable. De son côté, le général de brigade Ali Boy Diarra, le chef d'état-major de l'armée de l'air, a précisé que ce lot d'équipements reçus n'a pas une vocation de prestige comme la flotte de l'armée de l'air a parfois été perçue. Il a expliqué que ce n'est pas donc une armée de parade que nous construisons. Nous avons l'ambition de construire une armée d'action opérationnelle apte au combat et décisive au moment opportun. Cette cérémonie a pris fin par la remise des clés des aéronefs par le chef suprême des armées au chef d'état-major général de l'armée de l'air. Des vols de démonstration ont marqué également la dernière étape de cette journée historique. Ces derniers temps, on constate beaucoup d'infos, surtout dans les médias mainstream, montrant les pertes au sein de l'armée malienne. C'est malheureux, mais c'est normal. Les soldats maliens sont réellement en guerre, ce qui veut dire qu'ils essuient des pertes tout comme des réussites. Et pour rappel, l'armée française en 10 ans de présence, censée être dans une guerre contre le terrorisme, a perdu seulement 53 de ses soldats. Ce qui montre évidemment que l'armée française n'a jamais été en guerre dans ce pays. Les FAMA sont maintenant donc réarmés et aptes à faire beaucoup plus de dégâts aux groupes terroristes dans le pays. Et avec les 26 000 ex-combattants qui se rajoutent au rang de l'armée et les nouveaux avions de chasse donc reçus, il est clair que les combats contre les terroristes vont s'intensifier.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a atterri dimanche en Afrique du Sud avant de se rendre en République démocratique du Congo et au Rwanda. Selon le ministère sud-africain des Affaires étrangères, une tournée africaine pour contrecarrer l'influence diplomatique russe. Cette visite intervient peu après la propre tournée africaine du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, en juillet. Quels sont les objectifs de cette visite? Luc Michel, géopoliticien, nous en dit plus.
Les Américains, comme je vous l'ai déjà expliqué, ils sont en pleine contre-attaque. Et le cœur de cette contre-attaque, c'est pas seulement la mer de Chine et la mer Noire, c'est évidemment l'Afrique qui est le ventre mou de l'impérialisme. Blinken voit que les Russes, évidemment, ont le vent en poupe. Ils voient un certain nombre de leurs alliés se ranger du côté de la Russie. À leur grand effroi, ils ont vu qu'il y avait plus de 30 États africains qui ne condamnaient pas la Russie, et des États qui étaient proches d'eux, en particulier l'Égypte, se rangent du côté américain. À partir de ce moment-là, Blinken est en Afrique pour contre-attaquer, évidemment, essayer de réduire les gains géopolitiques russes en Afrique. Il va en particulier visiter des États qui étaient des alliés des États-Unis pour tenter de rattacher ceux-ci au bloc américain. Il va en République démocratique du Congo, où Kabila est en train de ressurgir et de se positionner pour les élections qui vont bientôt arriver. Il va évidemment en Rwanda, dans lequel il va essayer de renouer son emprise sur la porte d'entrée des Américains en Afrique. Il va au Kenya, évidemment. En Afrique du Sud particulièrement, où la fille des époux Zuma intervient évidemment comme une représentante de la Russie dans la confrontation entre les Américains et le bloc de l'Est. Pour les Américains, évidemment, l'Afrique est un continent essentiel. La manœuvre américaine, elle est déjà appuyée dans trois domaines. Il y a tout d'abord cette loi américaine pour intervenir dans le domaine économique et contre essayer de combattre les investissements russes en Afrique et combattre les États africains qui se sont rangés du côté de la Russie. Il est bien certain que ce que les Américains ont en vue, ce sont des sanctions. Et contrairement à la Russie, qui est prête à faire face aux sanctions américaines, comme elle le prouve dans le dossier ukrainien, les Africains ne sont pas prêts à faire face à ces sanctions. Les sanctions, évidemment, économiques de la CEDEAO contre le Mali, par exemple, ont été dévastatrices par ce pays. Le second domaine, c'est le domaine de la guerre médiatique. Les Américains ont constitué un centre spécialisé pour mener la guerre de communication dans toute l'Afrique. C'est le Global Engagement Centre qui a déjà émis des rapports contre la Russie, notamment dans le domaine de la Centrafrique et du Mali, et qui ont fait beaucoup de tort, évidemment. Et le troisième domaine, c'est le déploiement de l'Afrique, non plus en Afrique du Nord, mais dans une zone qui va des frontières du Maroc à la mer Rouge, évidemment. Donc les choses ne sont pas gagnées et les Américains ne lâcheront pas l'Afrique sans combat.
Le Conseil des ministres tenu le vendredi 5 août au Niger a adopté le projet de décret portant adoption du manuel du Programme national de sécurité de l'aviation civile, PNS. Le Programme national de sécurité de l'aviation civile, PNS, est un ensemble intégré de règlements et d'activités qui visent à améliorer la sécurité de l'aviation civile, explique le communiqué du gouvernement. Le projet de manuel du PNS est élaboré en application des dispositions de l'annexe 19 à la Convention relative à l'aviation civile internationale et de l'article 306 de l'ordonnance du 14 mai 2010, portant Code de l'aviation civile en République du Niger, renseigne le communiqué issu du Conseil des ministres. Ce manuel, conçu comme un ensemble de mesures destinées à minimiser, voire à éliminer les risques d'accidents de l'aviation civile, a pour objectif de décrire le programme national de sécurité afin de garantir que toutes les administrations concernées en aient une compréhension commune. Il précise notamment la structure du PNS, les procédures qui y sont associées, l'interaction des diverses composantes, ainsi que les rôles des différentes autorités aéronautiques nationales dans la mise en œuvre du dit programme. Le 28 juillet, alors que des manifestations avaient lieu à Conakry, le président Bissau Guina, Umaro Sisso Embalo, président en exercice de la CEDEAO, prenait la parole à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron dans son pays. Il annonçait s'être mis d'accord avec Mamadi Doumbouya pour qu'il ramène la durée de la transition guinéenne de 36 à 24 mois. Le gouvernement guinéen avait aussitôt démenti et assuré qu'il n'en avait jamais été question lors du séjour le 20 juillet du président Embalo en Guinée. Pourtant, l'affaire est bien plus compliquée. Un accord a bel et bien été trouvé le 20 juillet entre Mamadi Doumbouya et Umaro Sisso Embalo. Lors d'un entretien, ces derniers se sont en effet entendus sur une transition d'une durée de 24 mois. Le Bissau guinéen avait toutefois accepté de laisser son homologue en faire lui-même l'annonce au public. Ce n'est que devant le long silence de Mamadi Doumbouya que Marossi Soembalo s'est décidé à vendre la mèche, 8 jours plus tard, le 28 juillet, à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron dans son pays. Le même 28 juillet, il s'est également entretenu au téléphone avec le président de la transition guinéenne avant de lui passer le chef de l'État français, lequel a encouragé Doumbouya à poursuivre les efforts en commun avec la CEDEAO. Mais l'annonce de Sisso Embalo a visiblement été vécue à Conakry comme un passage en force. Regrettant en coulisses que la forme diplomatique n'ait pas été respectée, Mamadi Doumbouya a ainsi préféré démentir tout accord et s'opposer officiellement à l'Organisation Ouest-Africaine. Les discussions se poursuivent toutefois entre Conakry et la CEDEAO et surtout entre les deux chefs d'État. Avec la fin de la campagne cotonnière 2021-2022, logiquement actée depuis le mois de mai 2022, le Cameroun devrait peu tirer profit de l'embellie des cours mondiaux de ce produit de rente annoncé au cours du troisième trimestre 2022 courant. C'est du moins ce qu'indique le test prévisionnel de conjoncture des pays de la CEMAC, Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, RCA et Guinée équatoriale. La baisse de la production cotonnière projetée entre juillet et septembre 2022 au Cameroun ne permettra pas au pays de doper les recettes issues de cette filière, en dépit de la hausse des cours mondiaux qui se profile à l'horizon. Mais malgré cette réalité conjoncturale, la dernière campagne cotonnière au Cameroun a été globalement marquée par une nouvelle embellie. Le 6 mars 2021, l'entreprise a procédé à la pose de la première pierre de sa 10e usine d'égrenage de coton dans la localité de Gouna. Son projet de construction d'une nouvelle huilerie dans la ville de Ngaoundéré a également connu une avancée avec la tenue du 22 au 27 mars 2021 des audiences publiques relatives à l'étude d'impact environnemental de ce projet, qui coûtera 25 milliards de FCFA. L'inflation atteint un record de 18,9% en juin. Le ministre ghanéen des Finances, Ken Oforiatta, qui frappe en ce moment aux portes du FMI, alors que son président Nana Akufo-Addo promettait en 2017 de rompre avec les institutions de Bretton Woods, a protesté lundi 8 août suite à la décision de l'agence Standard & Poor's de dégrader la note de son pays dans la catégorie ultra-spéculatif. Cette fois-ci, le ton est plus mesuré. L'argentier n'allant pas jusqu'à accuser les agences internationales d'être institutionnellement biaisées sur les économies africaines.